Bonjour Elisabeth Von Arbourg, merci d'être venue à notre émission Dounia reçoit sur la tribune des Vagabonds du rêve. Donc, je vous reçois aujourd'hui en tant qu'autrice de fantasy, uchronique, dont on parlera un peu plus tard. Vous êtes aussi autrice de science-fiction. Vous êtes compositrice, chanteuse. Vous avez été enseignante en littérature et en création littéraire. J'ai pu voir que vous aviez dirigé des ateliers d'écriture. Et vous êtes aussi directrice littéraire chez Solaris, qui est une revue de science-fiction assez importante et qui est une revue canadienne. C'est bien ça. Donc, je...
Québécoise.
Québécoise, pardon.
Merci.
Québécoise, faudra... Là, c'est...
ouais, non, c'est important, c'est important.
Eh bien, alors québécoise, une revue de science-fiction québécoise, donc francophone, si,
Francophone.
francophone.
C'est pas une évidence au Canada.
Alors, je vais vous passer la parole, je vais vous laisser vous présenter comme vous voulez, ce que vous avez envie de dire sur vous, et puis après, on passera à votre livre, donc, pour lequel sur lequel on aura pas mal de choses à se dire et après on verra effectivement s'il y a d'autres choses à vous demander. Donc,
Okay.
allez-y.
Alors, exercice mon narcissisme galopant. Me
Allez.
présenter moi-même. Ben d'abord, pour commencer, je suis née dans un autre siècle et dans un autre monde. Parce que les années. Je suis née en 47. Les années 50 et 60 en Europe et en France, c'est vraiment un autre monde. Psychologiquement, historiquement. Par exemple, le fait que j'ai eu 20 ans dans les années 60 est important pour, comme pour toute une partie de ma génération. Et c'est important pour moi comme femme aussi, parce que le féminisme des années 70 n'est pas le féminisme des années 80, ni 90, ni 2000, ni 2010, ni 2020. Et donc, la perspective que je peux avoir sur le monde où j'habite. Et c'est cette perspective qui informe mon écriture et ma fiction. Perspective est quand même un petit peu différente. Alors oui, j'ai enseigné. J'ai fait des études classiques, puis heureusement modernes, parce que sinon, oh là là, j'ai acquis toutes les peaux d'âne nécessaires, le CAPES, l'agrégation. Et j'étais partie pour enseigner au secondaire. J'ai enseigné au secondaire pendant un an et je me suis rendu compte que c'était l'écriture ou l'enseignement. Et que si ça devait être l'enseignement, je deviendrais dingue. Et heureusement, à ce moment-là, nous avons émigré, mon mari de l'époque et moi, au Québec, où j'ai eu les grands espaces, le rêve de l'Amérique, etc. Je dois dire que oui, ça existait quand même. L'Amérique francophone, en plus, qui était une espèce déjà d'uchronie dans l'imaginaire. Et j'ai eu l'occasion d'y enseigner dans une université, ce qui n'aurait pas été le cas en France. J'ai eu l'occasion d'y faire de la chanson, de la radio, ce que je n'aurais pas pu faire en France. Et surtout, j'ai eu l'occasion d'y participer à la naissance du milieu de la science-fiction et du fantastique québécois, ce que je n'aurais pas pu faire en France, puisque c'était déjà installé et on se bouffait déjà le nez allègrement depuis les années 50. Et donc, j'ai pu participer de façon très active à ce milieu comme critique littéraire, comme écrivaine, comme directrice littéraire, et j'y participe toujours, comme animatrice d'ateliers d'écriture, mensuel ou annuel, c'est toujours le cas. Et c'est vraiment, ça a été un changement de voie. Important pour moi, parce que si j'étais restée en France, je serais morte. Métaphoriquement, je serais morte, parce que j'aurais pas écrit. Tout simplement, j'aurais été prise dans la petite cage de l'écureuil de l'enseignement, et je ne sais pas si j'aurais duré très longtemps d'ailleurs, mais justement, je ne sais pas ce que j'aurais fait, parce que voilà. Alors, pour la présentation, c'est ça. Concluons en disant que j'aime les chats, la pâtisserie et les mauvais jeux de mots, et l'hiver. Et l'hiver, j'aime beaucoup l'hiver. Et pour l'instant, je ne suis pas trop frustrée, mais ça viendra, sauf que bon, ça dépend combien de temps je vais encore durer. Voilà pour la présentation.
Merci. Et en fait, puisque vous dites que vous avez eu le bonheur de finalement de participer à la création enfin, à l'émergence d'un univers littéraire de l'imaginaire au Québec, hein, puisqu'on parle toujours du Québec, qu'est-ce qui vous a amené à l'imaginaire finalement? Vous auriez pu aussi être dans d'autres milieux littéraires, même au Québec, non?
Ce
Pourquoi
qu'il y a
l'imaginaire?
des milieux littéraires où il n'y a pas d'imaginaire, aïe, ils vont pas être contents quand ils apprendront ça, dites donc.
L'imaginaire en tant que genre littéraire, qui a été quand même bien.
L'imaginaire n'est pas un genre littéraire, ok?
Alors, allez-y.
L'imaginaire n'est pas un genre littéraire, oh mon Dieu. Bon, l'imaginaire, c'est ce qui nous fait humain, enfin, c'est ce qui nous rend humain. Il n'y a que les gens qui sont morts, qui n'ont pas d'imaginaire. Ou bien les gens qui sont presque morts et qui n'ont vraiment plus les capacités physiques. Même quand on est en train de crever de faim, on imagine de la bouffe, je suppose. Imaginer ce qui n'est pas là, c'est un trait, pour l'instant, fondamentalement humain. C'est ça l'imaginaire. Être capable d'aller voir plus loin que ce que nos sens, déjà très limités, nous permettent de percevoir, d'appréhender et de manipuler. Alors oui, imaginaire, sinon, encore une fois, je serais déjà morte depuis longtemps.
D'accord, alors c'est une raison de vivre.
Pas mal, oui.
Ou une preuve de vie.
Ah ouais, preuve de vie, voilà.
Alors en fait, aussi la question que j'avais envie de vous poser, c'est dans vos lectures, dans votre découverte personnelle, votre culture donc d'autrice. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont marqué ou des courants ou soit en science-fiction, soit en fantasy ou en fantastique même? Ou est-ce que c'est...
C'est pour ça que je précisais que je suis née dans un autre siècle et dans un autre monde. La science-fiction, ça n'existait pas pour moi dans la campagne bourguignonne à 100 km de Paris à l'époque. C'était la lointaine, lointaine campagne, hein, c'était pas la banlieue de Paris. Je n'ai appris le mot science-fiction que beaucoup plus tard, à 15-16 ans, quand j'ai découvert. Quelqu'un qui bradait sa collection de fiction et galaxies. Bon sang, mais c'est bien sûr, je lisais de la science-fiction depuis un petit moment, enfin, au moins sous forme de bande dessinée dans Spirou, Tintin et même Pif et je ne sais plus trop quel truc les bandes dessinées que je lisais quand j'étais gamine. Ah ben mon Dieu, c'était de la science-fiction, c'était de la fantasy et c'était du fantastique, mais je l'ignorais. On n'étudiait pas le Horla non plus, enfin, je veux dire, Maupassant, non, oui, on le citait comme ça un petit peu, mais. Non, quand on fait des études classiques en plus, grec, latin, philo, la science-fiction, oh my God, non, non. Donc, ce qui m'a influencé sans que je le sache, et en fait, ce sont les contes et légendes que je lisais quand j'étais petite. Tous les contes et légendes du monde, là, je ne sais plus dans quelle collection, il m'en reste un, j'ai réussi à en sauvegarder un, celui sur les contes et légendes roumains. Et c'est ça qui m'a influencé, qui m'a aidé à développer mon imaginaire, si vous voulez. C'est ça, mon imaginaire s'est développé avec les contes et légendes, avec des choses comme ça. Et quand je les ai retrouvés dans des autres textes, c'était cette étrange familiarité. Bon. Sinon, des auteurs qui m'ont marqué et qui m'ont inspiré, puisque je suis d'un autre monde, ce ne sont pas des auteurs de science-fiction, et ce ne sont même pas des femmes. C'est Camus, c'est Hugo, c'est Rimbaud, c'est Baudelaire, c'est Chateaubriand, c'est Montaigne. Ça n'a rien à voir. Par contre, à partir de l'âge de 15-16 ans, où j'ai donc découvert les textes de science-fiction en traduction et très vite dans les langues originales, parce que dans les années 60, il n'y en avait pas beaucoup on avait vite fait le tour de ce qui était publié. Imaginez, pouvez-vous imaginer ça? Non, vous ne pouvez pas. On avait vite fait le tour de ce qui était publié et même ce qui était trouvable en occasion, on avait vite fait le tour. Et donc, je me suis mise, comme j'avais appris l'anglais, ça tombait bien, je me suis mise à lire en anglais de façon intensive, ce qui a été très bon pour ma bilingualité et m'a aidée plus tard à devenir traductrice. Alors, ce qui m'a influencée, je ne peux pas, si je prends ces débuts-là, il n'y a pas quelque chose de spécifique parce que j'ai eu tout un, comment est-ce qu'on prononce, Morgasbrod, j'ai eu tout un étalage de hors-d'œuvre dans tous les genres, dans tous les styles, toutes les formes de voix. Beaucoup d'hommes, bien sûr, mais des femmes aussi, en traduction, dans les pages de fiction et de galaxies. Et il y avait aussi de la science-fiction et de la fantasy et de fantastique français par des Français. Ce qui fait que je les ai toujours mis sur le même plan, je n'ai jamais considéré qu'ils étaient inférieurs. Et ça m'a toujours surprise ou accablée de voir qu'on avait tendance à regarder les productions locales de haut par rapport aux productions anglophones ou autres. Il y avait aussi quelques autres traductions d'autres, bon, des Européens, des Italiens, des Allemands, des Russes et même quelques Espagnols qui traînaient par là. Donc, je ne peux pas choisir un ou une auteur qui. Par contre, à partir d'un certain moment, quand j'ai eu 17-18 ans et que j'ai commencé à me politiser, parce qu'enfin, mieux vaut tard que jamais, là, j'ai découvert les femmes. Non que j'ai été féministe à ce moment-là, je le suis devenue à cause de la science-fiction, justement, et de ce que je lisais en science-fiction, et toute une série d'expériences, parce qu'enfin, quand même, on était rendu à 68, là, d'expériences personnelles. Alors, il y avait des femmes, il y avait des voix de femmes, et curieusement, je trouvais ces voix-là plus intéressantes, de plus en plus intéressantes, que les voix d'hommes. Il faut dire que la science-fiction anglophone des années, et même francophone, des années 80, 70, fin 70 et 80, était pas mal testostérone. On dit oui, testostérone. Et j'en avais un peu marre des histoires de space opéra. Ouais, joyeusement. Des quillons, des planètes entières, des systèmes planétaires entiers, oh, puis des univers entiers pendant qu'on y est, des milliards et des milliards de morts, comme ça, en trois phrases. Oui, non, grosse fatigue. Le cow-boy de l'espace, ça commençait à faire. Et les femmes disaient autre chose, ou si elles en parlaient, c'était autrement. Quand on lit Joanna Russ, par exemple, comment est-ce que ça a été traduit en français? Est-ce que ça a été traduit en français? C'est une des grandes absentes de la traduction à l'époque. Those who are about to, ceux qui sont sur le point de mourir, où vous avez des gens qui sont naufragés sur une planète, un ou deux gars et des bonnes femmes, et le premier réflexe des gars, c'est bon, alors on va tous vous mettre en cloque, vous allez nous faire des enfants et nous allons créer une société. Et les femmes disent non. Non, non, on ne veut pas. D'abord, cette planète n'est pas vraiment vivable, puis enfin non. Et là, moi, c'était « Ah oui !» C'était autre chose.
Ça devenait intéressant.
Complètement autre chose. Bon, évidemment, il y avait Judith Merrill, il y avait cette espèce d'approche. Alors, ce que j'aimais, c'était les humanistes de la science-fiction, les Sturgeon, les Simak. J'avais été évidemment bien impressionnée par Dune parce que c'était a planet story et que j'en écrivais une, moi, depuis que j'avais 15 ans, Tyrannaël. On pouvait faire ça, on avait le droit. Et puis aussi les dérives linguistiques, enfin les Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, pas tellement pour la fantasy, le fantastique, etc., quoique j'aimais bien tout ça, ça me rappelait des souvenirs justement de lecture de contes et légendes, mais surtout toute cette création d'un monde par le vocabulaire. Et ça aussi, j'étais en train de le faire. Ah bon, c'était permis. Ce sont des gens qui m'ont donné la permission d'écrire ce que j'écrivais. Deux hommes, sorry. Heureusement, il y a quand même une femme dans le décor. Il y a Ursula Le Guin. Enfin, Le Guin vint. Enfin, elle était là depuis un petit moment quand même. Mais elle commençait aussi, hein, dans les années, à la fin des années 60, elle commençait, elle avait publié sa trilogie de la planète des illusions, là. Et puis, non, il y a eu La main gauche de la nuit. Et là, quand j'ai lu ça, en traduction, c'était oui. Vous savez, la fin de l'Ulysse de Joyce, oui, c'était oui. Voilà ce que je veux lire, voilà ce que je veux écrire, voilà la conversation que je veux avoir avec quelqu'un, avec cet auteur-là, je veux avoir une conversation avec. Et je n'ai jamais cessé d'avoir une conversation littéraire avec Le Guin, comme plein de femmes de ma génération, parce que c'était toute cette réflexion sur le genre, bien sûr, mais c'était aussi l'intégration de la planète story, de l'ethnographie, de la philosophie, de la réflexion linguistique. Et il y avait en plus une belle histoire d'Amur. C'était ça. Alors, à partir de là, ça a pas mal... J'étais déjà pas mal axée sur les femmes, mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et là, j'ai commencé à comprendre pourquoi. Parce que c'était des voix VOIES et des voix VOIX différentes. C'était les mêmes thèmes. Il n'y a pas 36 000 thèmes en science-fiction. Mais c'était une approche complètement différente. Et une fois que j'ai été au Québec, pendant une dizaine d'années, alors que bon, le féminisme continuait à m'alimenter, si vous voulez, j'ai étudié systématiquement pendant un moment dans des espèces de projets de post-doctorat ou whatever. J'avais fait mon doctorat sur la création littéraire, mais... à étudier des textes d'auteurs masculins et d'auteurs féminines, vous voyez, je ne suis pas encore reconstruite, sur les mêmes thèmes, pour voir si c'était différent. Y a-t-il une écriture féminine ? Je ne sais toujours pas.
Je sais qu'il y a des pas le savoir.
Je sais qu'il y a des textes qui me branchent plus que d'autres. Mais il y a une façon d'approcher le corps, sa relation au monde, la relation à autrui, qui est yin et pas yang. Et il y a des hommes qui sont yin. Et il y a des femmes qui sont yang en maudit. C'est tout, c'est la seule conclusion à laquelle j'ai pu arriver après 10 ans de grattage de crâne.
D'accord. Alors, puisqu'on va glisser vers votre écriture, puisque c'est quand même vous qu'on a envie de rencontrer aussi, on va parler de... Alors, je ne sais pas dans quel sens on peut les prendre, je vous me dirai. On va parler donc du cycle, on peut appeler ça un cycle, je pense, Les pierres et les roses, que vous avez aussi tout à l'heure appelé un roman feuilleton, qui est une façon classique d'appeler un très très long roman qu'on écrit par petits morceaux. Ça s'appelle Les pierres et les roses. Il a été primé. C'est un livre en 3 tomes qui a été primé par le prix Le Boréal, qui est un prix, je pense, québécois de littérature.
De l'imaginaire
plus global.
Prix du public. Ce n'est pas un prix avec jury, c'est un prix du public.
C'est un prix du public, c'est encore mieux, parce que là, ce sont des gens qui ont voté, comment dire, avec leur cœur, enfin avec leur tête. Et donc, est-ce qu'on peut en parler ? Soit vous nous dites d'abord qu'est-ce que c'est que ce roman comme projet, comment vous l'avez construit, d'où il vient, parce que c'est 2018, c'est assez récent encore. On a perdu une année qui était l'année 2020 et 2021, donc je pense encore très récent. 2018.
On l'a publié juste à temps. Hein.
Oui, il y avait de la lecture.
Ce roman, l'idée, le projet de ce roman date de 1998. J'écris sur de très longues périodes.
Ah oui.
Oui, je parlais de roman feuilleton pendant que nous devisions tout à l'heure.
Tout à fait.
En secret. Parce que c'est un roman, ce qu'on appelle le roman choral. Ça fait bien dans le décor. C'est-à-dire avec un point de vue multiple. Ce n'est pas un narrateur omniscient ou une narratrice omnisciente. Ce sont des personnages qui ont chacune et chacun leur point de vue sur le monde où ils habitent et ce qui s'y passe. Et donc, effectivement, c'est relativement facile à couper en tranches. Heureusement, puisqu'il va donc paraître, il va donc paraître en poche chez Alire, mon éditeur québécois, en 6 volumes. Yeah.
Et quand? Vous avez une idée?
La première tranche, les deux premiers volumes vont paraître en septembre.
Là, ce mois-ci, septembre 2022.
Octobre, fin, par là.
Bientôt, quoi.
Par là, bientôt. Et j'ai été agréablement surprise de voir qu'effectivement on pouvait les couper en tranches, et c'est pour ça que j'ai commencé à me dire ah bah c'est un roman fait. Alors donc ça vient de très loin. D'une certaine façon, c'est le genre d'histoire que je me racontais quand j'étais gamine et que je jouais, et même encore adolescente. Oui. Des histoires de poids chevaliers, de frères ennemis, de terribles malentendus, de trahison, de rédemption, avec un petit peu d'histoire d'amour. Un truc moyenâgeux. Moi, Robin des Bois, j'aimais bien. Bon. Et puis, en 98, j'ai revu une adaptation de Ivanhoé, une adaptation anglaise, avec des acteurs, en particulier un acteur qui m'a beaucoup impressionné. C'était censé être le vilain, mais il était récupérable. Moi, c'était lui qui m'intéressait, c'était pas le gentil. Donc, bon. Et alors, je me suis mise à carburer là-dessus, à réécrire cette histoire. C'est ce que je faisais quand j'étais. Les premiers textes que j'ai écrits, c'était des réécritures de scénarios de films dont la fin ne me satisfaisait pas. C'est court. Hein. Alors là, je refaisais ça, et plus ça allait, plus je m'éloignais de machin. Mais bon, des histoires moyenâgeuses, des romans historiques, ce n'est pas mon truc du tout. Ça ne m'intéressait pas. Entre-temps, en 98, justement, à la mort de ma mère, au moment où je pensais que j'écrirais plus jamais rien, une fois n'est pas coutume, j'ai eu ce rêve. Je fais beaucoup de rêves et je fais beaucoup d'histoires qui partent de rêves. Et j'ai fait un rêve extrêmement complexe et inhabituel, surtout nouveau. Moi, ça m'intéresse quand je rêve des trucs nouveaux. Et de ce rêve est sorti, les cinq volumes de Reine de mémoire, qui est également une uchronie qui ne se passe pas au Moyen-Âge, ça commence au XVIe siècle et ça finit au tout début du XIXe, en cinq volumes, et aussi un roman choral avec plusieurs points de vue. Et c'était la première fois que j'écrivais une uchronie. Ça m'a donné un boulot absolument épouvantable. Heureusement, il y a l'Internet. Heureusement, à ce moment-là, il y avait vraiment l'Internet, Google et mon ami. J'ai fait des recherches et je partais dans le trou du lapin. Quel rapport avec les voix, la voix des roses, avec les pierres et les roses? Eh bien, c'est qu'à un moment donné, comme ce roman ne cessait, enfin, comme cette histoire ne cessait d'occuper l'arrière-fond de ma cervelle, à un moment donné me vient l'idée épouvantable. Et alors, si je croisais l'univers, l'arrière-monde, de Reine de mémoire, qui est un univers très complexe, très construit, avec celui de cette histoire de chevalier moyenâgeux, etc. Aïe, aïe, qu'est-ce que je n'avais pas fait là? Parce qu'il n'y avait plus rien, presque plus rien qui marchait dans le scénario, parce qu'une fois que vous mettez de la magie dans le circuit, ouf, tout est parfait. En plus de ça, j'avais cette angoisse de me dire « Oui, mais j'ai déjà traité tout ça !» Les nouvelles religions, mon point de départ, le point de départ de cet univers, c'est que le Christ a eu une sœur jumelle, Sophia, et que c'est lui qui est mort sur la croix parce qu'ils ont tiré au dé, mais que c'est elle qui a créé la religion, enfin qui a aidé à la fondation de la religion dite des Gémeaux, Géminites, et ça bouleverse absolument le monde entier. Je veux dire, toutes les religions sont à refaire, et même l'histoire des colonisations, enfin tout, ça a vraiment tout changé, et c'était le pied de voir à quel point un point de départ aussi sauté changeait des sources. J'avais envie de voir ce que ça faisait, parce que je me disais, j'étais dans un moment où je me disais ce qui nous fuck en bon français, ce qui nous tue, c'est la scission, les oppositions binaires. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les bons, il y a les mauvais, il y a le noir et le blanc. Ça a toujours été ma bête noire, ça. Comment réconcilier, comment négocier les oppositions, comment arriver à négocier les contradictions, à vivre avec, à les rendre vivables. Et il me semblait qu'un des grands désastres de l'histoire humaine, c'était les religions, en particulier celles du livre, avec leur conception du corps et accessoirement de la femme, de la matière, materia, etc., et son rapport à la nature. L'homme a été mis au sommet du bidule pour régner sur tout le machin. Et je m'étais dit, qu'est-ce que ça ferait s'il n'y avait pas ça dans les écritures sacrées, etc., si le message n'avait pas été celui-là, si le message avait été celui de vous êtes les gardiens, pas les maîtres. Vous êtes les gardiens de la nature et non pas les maîtres. Et les hommes et les femmes sont vraiment égaux. Parce qu'ils sont tous les deux une représentation de la divinité qui n'est ni homme ni femme, qui est tout. Alors, à partir de cette espèce de machin, j'ai donc créé un univers extrêmement complexe pour moi, en tout cas, pour moi, je le trouve bien compliqué.
Oui, je confirme, il est très complexe, je ne dis pas compliqué, hein. Très complexe.
Avec plusieurs religions, plusieurs mythologies, etc., etc. Et bon, il y a des affrontements entre les géminites et ceux qui sont leurs ennemis jurés, les chrétiens et non pas les chrétiens, qui sont une secte géminite qui a mal tourné, qui déteste la magie, qui brûle les sorcières, et qui s'est réfugié dans le Nord, enfin, qui est tout le temps en train de faire du trouble, tout le temps en train de vouloir faire la guerre. Et, enfin, c'est comme ça que les géminites les voient. Et donc, je me disais, mais je vais refaire la même chose, enfin, je vais encore parler de la même magie. Puis je me suis rendu compte, en réfléchissant, au fil des années, que non, si je situais mon truc au Moyen-Âge, et si je le situais parmi les chrétiens, et qu'on voyait enfin les chrétiens vus par eux-mêmes et non pas par les autres, ce serait différent. Et qu'il y avait tout un tas d'aspects de la magie aussi que je n'avais pas couvert. Youpi ! Et donc, je suis partie dans les pierres et les roses.
Avec plusieurs types de
98 magie. Ah, je l'ai fini en 2018. Il était publié en 2018, je l'ai fini en 2017. Après un certain temps.
Ce qui est compréhensible, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de personnages. Enfin, c'est un vrai roman de fantasy. Il y a
Je vous arrête tout de suite. L'Uchronie n'est pas de la fantasy.
Non, mais celle-là, c'est justement.
Qu'est-ce que c'est que la fantasy ? Alors, je vous explique. Pour moi, toute Uchronie est de la fantasy parce qu'elle procède du même. Est de la science-fiction parce qu'elle procède du même mouvement de l'imaginaire, qui est de dire « et si c'était autrement ?» qui me paraît être le mouvement essentiel de la science-fiction, n'est-ce pas ? Alors, la science-fiction dit plutôt « si c'était autrement maintenant, comment ça serait plus tard ?» L'Uchronie dit « si ça avait été autrement à tel moment choisi, comme on estime que c'est un moment clé pour une raison ou une autre, on a ses propres... » Bébel, comme on dit ici, comment ce serait différent, comment ça aurait été différent et comment ça serait différent maintenant et comment ça pourrait être différent plus tard. Donc, c'est exactement le même mouvement. Premier élément. Deuxième élément, ce n'est pas parce que des personnages dont on partage le point de vue considèrent leur univers et ce qui arrive dans cet univers comme étant habité par le surnaturel et la magie, que ce sont des narrateurs fiables. Ce n'est pas parce qu'eux considèrent qu'ils vivent dans un univers magique que leur univers est magique. C'est une interprétation de l'univers. Et je me suis donné beaucoup de mal, que ce soit dans Reine de mémoire ou dans La Voix des pierres et des roses, pour saupoudrer des indices qui peuvent, pour un lecteur vraiment mal intentionné, là, qui peuvent amener de la réflexion, mais finalement, c'est peut-être pas de la fantasy du tout, c'est peut-être un univers réel de science-fiction. Il y a
science-fiction.
Il y a des interprétations, si on veut le lire comme de la science-fiction, on peut le lire comme de la science-fiction, moyennant une ou deux clés. OK, les talentés qui disposent de pouvoir, ce sont des êtres humains. C'est le « et si », c'est un des « et si » point d'interrogation qui démarre le processus. Et s'il y avait dans l'une, s'il y avait des êtres humains qui sont capables de percevoir l'univers non pas tel que notre cerveau, qui est une machine à limiter nos perceptions, tel que notre cerveau nous le montre, mais bien plus proche de ce que nous dit intellectuellement la physique moderne. L'entremonde, qui est la source de la magie, qui est la source d'un certain type de relation au monde physique et au monde, comment dirais-je, c'est pas intellectuel, non, et un certain type de relation à autrui, puisqu'on peut, dans l'entremonde, on peut coïncider avec quelqu'un, ce qui fait qu'on peut connaître ses sentiments, ses émotions, pas forcément ses pensées, mais bon, vous voyez où on s'en va avec ça. Par ailleurs, on peut manipuler le monde physique du macrocosme, si vous voulez, parce qu'on a accès à l'entremonde où on manipule à un autre niveau, dans une autre dimension. Alors, vous voyez, rien qu'avec ce que je vous dis là, que ce n'est plus de la fantaisie, là, d'une certaine façon. C'est le moment où la fantaisie et la science-fiction sont si proches l'une de l'autre. Ça m'a toujours intéressé de voir jusqu'où on peut pousser les extrêmes, que ce soit les genres, parce qu'il y a un moment où la science-fiction et la fantasy se rejoignent, et c'est précisément dans l'Uchronie, ou que ce soit les techniques littéraires. Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser, par exemple, un type de narrateur que je déteste, qui est le narrateur omniscient, celui qui ne dit pas « je », mais qui est omniscient, c'est Dieu. Bon. Jusqu'où est-ce qu'on peut le pousser jusqu'à ce qu'ils deviennent tous les types de narrateurs et qu'ils redeviennent un Dieu plus humble, plus modeste, qui dit ben « finalement, je ne sais pas vraiment ». Et ce genre de choses-là. Et donc, écrire de l'Uchronie, pour moi, ça a été une façon, que ce soit Reine de mémoire ou, bien entendu, pour les pierres et les roses, là, j'en étais vraiment consciente, mais c'est en écrivant Reine de mémoire que j'en ai pris conscience, à quel point la construction de monde est la même dans la science-fiction et la fantasy, et comment c'est une question de lecture. Si vous dites, ah bon, bah, c'est des mutants, paf, ça vient de basculer. Hein. Il suffit de ne pas dire mutant. Je me suis rendu compte, en fait, avant, j'écrivais un texte et on me demandait un texte de fantasy. Je n'écris pas de fantasy. Et j'avais écrit un texte de science-fiction qu'on me disait être de la science-fiction. Et j'ai systématiquement changé peut-être 4 termes. Et on m'a dit, oui, bah ok, c'est de la science-fiction. Et inversement, un autre texte, l'expérience inverse, l'exercice inverse, ah ben c'est devenu de la fantasy. En changeant quelques mots. Donc, c'est vraiment une question de lecture.
Et la fantaisie,
c'est une question de lecture.
Du coup, ça dépend aussi beaucoup du lecteur.
Ah oui, c'est ça, c'est une lecture. Un texte, c'est toujours une collaboration. Les textes n'existent pas sans des yeux pour les lire. Si un texte existe dans la forêt et qu'il tombe, est-ce qu'il fait du bruit ? S'il n'y a personne pour le ramasser, bon.
Alors, pour revenir au roman, j'ai été frappée en lisant. Alors, j'avoue que je n'ai pas terminé le cycle, hein, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire. Je suis dessus. Mais j'ai un peu traîné en route cet été. Donc, quand vous avez écrit ce roman, vous parlez là effectivement de la construction de l'univers, mais il y a aussi le style d'écriture, l'écriture en elle-même, de la syntaxe, vous utilisez le vocabulaire, les tournures. J'ai eu l'impression que c'est une écriture qui a été adaptée à ce récit. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que...
Est-ce que vous dites ça par rapport à d'autres textes de moi que vous avez lus?
Non, parce que j'en ai pas lu assez pour pouvoir juger. Parce c'est pour ça que je vous pose la question.
Personnellement, j'avais l'impression en l'écrivant que c'était effectivement un style un peu différent, plus abordable, parce qu'il paraît que j'écris d'une façon compliquée, difficile à comprendre. Ah bon. Je suppose que l'effet histoire de chevalier de mon enfance, Ivan Noé, Victor Hugo, Le Comte de Monte Cristo et autres lectures de ce genre, roman feuilleton, disons, a peut-être influencé un peu. D'un autre côté, le problème d'écriture que je voyais n'était pas tellement celui-là, c'était comment écrire, quel terme choisir qui produise un effet suffisant de décalage. Ok, ceci se passe au Moyen-Âge. Et les tournures ne seront pas « Ah oui, bah, je te passe le sel !» Non, non, je vais vous donner le sel. Il y a un certain registre qu'on utilise dans la fantaisie, qui est le registre dit noble ou élevé, et ça peut donner des trucs absolument illisibles, imbuvables, tellement c'est du formol, c'est...
Est-ce réel
tout, ouais, c'est ça. Voilà. Alors comment trouver une façon de s'exprimer qui soit d'abord en rapport avec les personnages et ensuite qui soit en rapport avec l'époque. Et alors là, comme pour dans Reine de mémoire, sauf que ça a été limité, Dieu merci, à une période qui va entre 1200 quelque chose et 1200 quelque chose, et non pas une période qui s'était entre 16e et 19e siècle. Là, j'avais recours au dictionnaire. Alors oui, est-ce que je peux utiliser ce mot? Ah non, il n'est utilisé qu'à partir du 15e siècle. Bon, c'est le genre de problème que tout auteur de roman à coloration historique, disons, plus généralement, c'est un problème qu'on rencontre tout le temps et auquel on devrait être, enfin, qu'on devrait rencontrer, auquel on devrait penser. Non, je ne peux pas utiliser des termes du XXe siècle dans un roman qui se passe au XIXe siècle. Bon. Alors là, c'était d'autant plus embêtant que, comme je connais très bien la période du XVIe, enfin très bien, je connais relativement bien la période qui va du XVIe au XIXe siècle, début du XXe siècle. Je pourrais... En particulier le 18e, la façon dont on parle. Enfin, j'ai fait des bonnes études. Le Moyen-Âge, par contre, non seulement ce n'est pas ma spécialité, mais encore, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus difficile de trouver de l'information pertinente pour ce que je cherchais. Alors, les recherches ont été plus difficiles là. Mais effectivement, il y a eu des choix de vocabulaire, il y a eu des choix de tournure. Et peut-être qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement de l'histoire en tant que telle, de l'intrigue en tant que telle, qui... Enfin, je n'ai pas l'impression qu'un de mémoire soit écrit d'une façon si compliquée non plus. Enfin, alors, c'est ça. C'est tout ce que je peux répondre à cette remarque. Je ne sais pas si ça...
Voilà, non, ça m'avait frappé à la lecture. Effectivement, ça crée une certaine profondeur aussi, une certaine... C'est pas juste, c'est pas du tout copié. On a l'impression qu'il y a une réflexion, même si c'est pas une réflexion. Peut-être que c'était juste une façon de sortir les mots pour se raconter ce que vous avez raconté. Mm-hmm. Plus que ça m'avait frappé parce qu'effectivement c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de textes parlant de fantasy qui sont pas si, qui sont même trop modernes quelque part. Et trop moderne, je veux dire trop contemporain dans linguistiquement, si j'ose le terme.
C'est une route un petit peu périlleuse parce que d'abord, on a donc le côté ampoulé totalement décrochant. Et de l'autre, on a l'abîme du « c'est trop moderne ». Donc, on a une voie relativement étroite à suivre pour garder les lectrices. Là, sans provoquer de décrochage. Le décrochage n'est pas toujours forcément conscient. C'est juste une impression de lecture qu'on a ou Non, ça marche pas vraiment. Ok, l'intrigue est sympa, les personnages sont sympas, mais le plaisir du décalage de l'impression d'être dans un autre monde, vraiment, de
Oui.
l'étrange, n'est pas là. Et c'est souvent la même chose en science-fiction, où on a le risque est un peu différent, on a le risque du jargon trop futuriste où on se perd, et puis le truc trop moderne, trop ici et maintenant, on ne va pas dire moderne, mais ici et maintenant, dans la façon de parler. Et c'est le même type de. Pour ces genres qui sont des genres de la spéculation, pour ne pas dire imaginaire, c'est difficile de trouver le bon registre linguistique. Enfin, c'est toujours un problème auquel il faut penser, dont on doit être conscient, me semble-t-il.
Alors, ce qui m'a aussi frappée en lisant le roman, c'est ce que j'appelle pompeusement le cadre géopolitique, parce qu'on est quand même dans des géographies très familières. Ça se passe entre la France, l'Espagne et puis le Moyen-Orient, tel dont on connaît la géographie et l'histoire de cette période. Il y a même vous avez parlé d'Ivanhoé à propos de votre. Du fond d'où ça
Oui,
viendrait.
non, là, je donne une clé essentielle,
Voilà.
là. C'est tout copié. Vous disiez copié tout à l'heure, mais c'est tout copié sur Ivanhoé, hein.
Sur Ivanhoé. Et en fait, c'est en même temps, comment dire, c'est très déstabilisant. C'est même plus déstabilisant qu'un roman post-apocalyptique ou quelque chose comme ça. C'est à la fois très familier. Oui,
C'est
vous
le propre
parlez
des. C'est le propre
il
des.
y a une ville en Auvergne où je suis passée cet été, et en fait, c'est complètement fou parce que ça raconte quelque chose qui se passe là.
C'est le propre de l'Uchronie, cette déstabilisation. Moi, c'est ce que j'aime bien dans l'Uchronie. C'est, comme on dit, comme je disais tout à l'heure, l'étrange familiarité. Ce sont des endroits qu'on connaît. Et puis, à un moment donné, on se dit, mais voyons, est-ce que celui-là. Il existe vraiment ou pas? Et c'est ce vacillement que j'aime beaucoup dans l'Uchronie, quand on arrive à le créer, où on ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce qui est pour moi une des expériences les plus épouvantables du fantastique. Ma
Oui.
vraie horreur dans le fantastique, c'est ça. C'est de ne pas savoir. Ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et je dois vous dire que maintenant, avec les deepfakes et tout ce qui est
Oui.
en train d'arriver à ce niveau-là, là, c'est vraiment c'est une épouvantablerie, là. Mais bon, et ça, j'aime bien quand on me dit, alors voilà, mais cette ville-là, est-ce qu'elle existe? Ou ce village-là, ou cet endroit-là, est-ce que. Et là, avec un sourire diabolique, je dis. Et c'est tout ce que je dis.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que, en fait, il y a aussi un autre aspect, c'est quelle liberté on peut prendre finalement avec une société qu'on regrette à partir de quelque chose dont on sait que ça a existé, qui ça a pu exister, parce que finalement, on n'est pas dans la tête des gens de l'époque, hein, mais en même temps. Comment on fait pour comment l'autrice fait pour aller vers quelque chose je pense par exemple au personnage de la femme médecin qui n'arrive pas, Rebecca qui n'arrive pas à faire aboutir à faire reconnaître son métier chez les chrétiens et qui va chez les géminites en espérant donc de l'autre côté, dans l'autre religion, et puis finalement ça se
C'est
présente mal au
relativement
départ.
problématique aussi,
Voilà,
oui.
pour d'autres raisons.
C'est ça. Vous dites quelque chose de très important là, c'est qu'on n'est pas dans la tête des gens de l'époque, on n'est pas non plus dans la tête des gens du futur.
Non, c'est sûr.
Je viens d'écrire plusieurs textes qui se passent dans un futur proche. J'ai enfin réussi après 15 ans de ramer avec ça. J'ai réussi à écrire quelques textes qui se passent dans le futur proche. Et le truc le plus difficile pour moi, ça n'a pas été d'imaginer l'univers, il est là, il est dans les journaux. Bon, il s'agit de choisir qu'est-ce qu'on décide de choisir dans l'horrible là, ou dans le supportable, mais c'est d'essayer d'imaginer la psychologie, les affects de gens qui sont nés, par exemple, en l'an 2000. C'est pour ça que je vous disais que ma caractéristique essentielle, c'est que je suis d'un autre siècle. Vous imaginez à quel point ça peut être difficile pour quelqu'un qui a grandi et qui a connu sa jeune adulteté dans les années 60 du siècle précédent, comme ça peut être difficile d'imaginer l'état d'esprit, mais même des gens de maintenant, des jeunes de maintenant. Alors les gens du futur en plus, évidemment c'est à la jonction de l'univers géopolitique, physique qu'on va imaginer et de ce qu'on sait ou imagine ou présume de la prétendue nature humaine. Bon, ok, chacun a sa vision de la chose, mais c'est très très difficile. Et ce qui me tue dans beaucoup de textes de science-fiction ou de textes justement à coloration historique, c'est comme si on ne s'était pas donné la peine de se poser la question. Non, non, ils pensent comme aujourd'hui. Ben non. C'est sûr que nous nous adressons à des gens d'aujourd'hui et il faut que ces gens d'aujourd'hui puissent comprendre. Mais il faut qu'ils puissent comprendre le décalage. Mmh. Ce qu'il faut leur rendre compréhensible, c'est le décalage. Et donc, la mise en scène, la mise en monde, la construction du monde est essentielle. Et moins, l'intrigue l'est moins, d'une certaine façon. Mais les personnages, oui. Et le monde dans lequel on les fait se débattre, oui. Alors, les libertés qu'on peut prendre, ça dépend. D'un côté, on a l'impression qu'on est très libre. Puis on se rend compte très vite que pas forcément tout le temps et pas avec n'importe quoi. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des questions qu'on doit se poser quand on écrit. Bon, ça peut être les questions d'appropriation culturelle, non ? Ça, il n'y en avait pas vraiment, quoique quand j'ai traité le Moyen-Orient, je me posais des questions. Mais il peut y avoir des questions concernant le genre, il peut y avoir des questions concernant la physicalité des personnages. Je me souviens d'un moment dans Chronique du Pays des Mers, aucun rapport, c'est de la science-fiction, où dans une des familles de mon futur post-apo, très post-apo, on est viable si on a des bras. On peut se permettre d'être en chaise roulante. Mais si on est sans bras, non. Ben, j'étais vraiment mal à l'aise avec ça. C'est cohérent avec le monde. C'est cohérent avec la logique du monde construit. Mais c'était pénible à écrire. Mais comme d'un côté, ce n'est pas une utopie, bon, ok. Mais c'était, je me disais, Alors, il ne s'est pas vraiment présenté des choses comme ça. Mais disons que je me pose toujours ce genre de questions-là. Déjà, la question de base, c'est la liberté. C'est un homme ou c'est une femme ? C'est une femme ou c'est un homme ? C'est les deux ? C'est what ? Bon, ça, j'ai appris à y répondre quand même en 50, 60 ans d'écriture. Là. Il y en a des autres. Est-ce qu'ils ont des infirmités ? Est-ce que, par exemple, Rebecca est myope comme une taupe. Enfin, pas vraiment comme une taupe, mais elle doit porter des lunettes. Par exemple aussi, je mets toujours un point d'honneur à ce que mes personnages aient une physicalité explicite. Ils urinent, ils défèquent, ils vomissent. Je suppose qu'ils éjaculent aussi, mais enfin, c'est pas ce genre d'histoire-là. Donc, et ils mangent. Les repas sont importants, comme dans les séries coréennes. C'est important de manger, parce que c'est une activité conviviale. Donc, ce sont des questions que je me pose. Et ce sont des limites à la fameuse liberté, d'une certaine façon. Mm. Alors, évidemment, du point de vue géopolitique, c'est une autre affaire. Il faut voir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit sans se rendre compte qu'on le dit. C'est pas évident.
Si on ne s'en rend pas compte. Ouais,
est-ce que je suis en train de faire la défense de l'esclavage sans le comprendre ? Non, c'est quand même pas rendu grave comme ça, j'espère. Mais ce genre de questions-là, les questions éthiques, c'est quoi ma position réellement vis-à-vis du féminisme, du socialisme, du transgenre, c'est quoi exactement? Et c'est une réflexion à laquelle on ne devrait jamais échapper, enfin, dont on ne peut pas faire l'économie quand on écrit. Que ce soit aujourd'hui avec le politiquement correct ou woke ou whatever, comment on l'appelle maintenant, mais déjà, enfin toujours, toujours, on a une espèce de responsabilité morale à l'égard d'un lectorat, si vaporeux soit-il, parce qu'enfin on n'écrit pas pour des lecteurs ou des lectrices en particulier, on écrit pour soi d'abord. Mais justement, c'est qui soi, c'est qu'est-ce que je veux me dire, qu'est-ce que je veux apprendre là, qu'est-ce que je veux m'apprendre, qu'est-ce que je devrais apprendre en me relisant là, à un niveau très concret, enfin pas grandiosement philosophique, par exemple. Dans mon premier roman, Le silence de la cité, il y a un personnage qui devient mère multiple de tas d'enfants, etc. Et dans mon idée, elle était très bien, c'était une excellente mère. Et là, mon premier bêta-lecteur me dit, mais dis donc, mais elle est absolument odieuse, ta bonne femme-là. Je dis, quoi? Puis je relis, et oui, bon Dieu, elle est totalement inconsciente de ce qu'elle fait. J'étais totalement inconsciente de ce que j'avais écrit. Et acquérir ce réflexe-là, je veux dire, c'est quelque chose qui s'acquiert. Je pense qu'on ne peut pas, peut-être qu'on l'a un petit peu trop aujourd'hui, je ne sais pas, non, je ne vais pas dire ça, on va me tomber dessus. Mais c'est un réflexe que j'ai acquis personnellement, de me dire, oui, bon, mais qu'est-ce que je dis là exactement là? Comment est-ce que ça pourrait être interprété? Et voir si, oui, parce que c'est discuter de telle façon et se présenter de telle façon, et c'est le questionnement que je veux présenter, ou bien non, 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 ça va, on va se tromper, il faut que je le présente autrement, il faut que je le négocie autrement pour que ça passe.
La liberté. Ça peut être aussi être amené à se demander si c'est si important dans le roman qu'on écrit, cet aspect-là ou cette intrigue-là.
Il y a ça aussi. Jusqu'à quel point est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai la liberté de me faire plaisir et de reconnaître justement que, oui, bon, ben là, tu t'es fait un peu beaucoup plaisir, là, Titine. On se calme.
Alors, j'aimerais bien que la nôtre arrive à la fin. Et je sais que vous avez écrit en anglais. Enfin, c'est ce que dit votre notice.
J'écris des textes théoriques.
Théoriques, donc, ce n'est pas de la littérature.
Je traduis certains de mes textes théoriques en anglais. Et je traduis certains de mes textes de fiction en anglais avec l'aide de mes traductrices et mes traducteurs. Enfin, j'ai eu une traductrice et un traducteur, tous les deux excellents. Et j'ai toujours travaillé 50-50 avec eux, et avec lui et avec elle. C'est-à-dire, par exemple, que je faisais une première version d'un texte, et là, il m'était renvoyé avec beaucoup de points d'exclamation. Ah. J'ai beaucoup appris encore de l'anglais en essayant d'écrire en anglais. Je serais totalement incapable d'écrire directement en anglais de la fiction. Je suis capable maintenant d'écrire de la non-fiction directement en anglais avec quand même un minimum d'abomination, ou bien alors c'est charmant parce que c'est...
c'est français.
Mais de la fiction, c'est pas possible parce que pour moi, l'écriture repose sur le sens de la nuance. Et la nuance, c'est avoir un vocabulaire extrêmement étendu. Il suffit pas d'avoir un dictionnaire de synonymes. Il faut savoir exactement à quelle nuance, enfin du moins le plus exactement possible, à quelle nuance, à quel registre de langue, à quel registre affectif correspond telle variante de tel mot. Et en anglais, ben non, je ne sais pas assez. Je ne sais vraiment pas assez. Voilà, alors c'est ça. Mais je suis très heureuse d'être bilingue, parce que ça me donne accès, au moins en anglais. J'aurais aimé être multilingue, mais bon, l'anglais c'est déjà pas mal, d'avoir deux langues c'est déjà pas mal. Ça donne accès à un autre monde, à une autre culture, et surtout, ça me donne accès à une quantité de textes de genre qui ne sont pas traduits, qui ne le seront jamais, et que je peux lire. Yeah.
Ça peut être une bonne motivation pour apprendre une langue aussi.
Oui, bah, surtout aujourd'hui, avec justement les liseuses, vous pouvez, c'est pas très agréable, d'accord, mais on apprend plus vite qu'on ne le croit. Quand on peut avoir recours à un dictionnaire tout de suite. Ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Pouf, dictionnaire. Ah, ok, d'accord. Il faut
Ben
avoir un
oui.
peu d'imagination aussi.
Oui, c'est vrai que après il y a aussi la compréhension passive, mais c'est une autre histoire. Et même, je finirais bien pour vous demander, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous étiez en train de publier des textes de science-fiction, là,
Oui,
des nouvelles.
il y a.
C'est pour savoir sur quel projet, sur quoi vous
Il
êtes en ce
y
moment.
en a une qui est publiée uniquement au Québec, je pense pas. Enfin, mais je l'ai fait retentir sur Facebook s'il y a des intéressés. Pourrait toujours commander le bouquin sur justement des choses du futur proche. Ça s'appelle Apocalypse Nord, pas ma nouvelle, mais le ou Nord Apocalypse, Apocalypse Nord, le recueil. Il y a plusieurs
Nord, Nord,
Nord
le
Apocalypse.
Nord.
Non, non, oui, non, le Nord, non, c'est Apocalypse. Enfin, il me semble, je
Non,
sais
non,
plus.
j'ai pas bien compris en fait. Apocalypse,
Nord.
Nord, oui, c'est pas le
Ce
titre
sont
du
des
film. Oui.
non, non, non. Ce sont des textes qui se passent dans ma région,
Dans le
au
Nord, oui.
Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais plus spécifiquement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par des auteurs qui sont soit natifs, soit résidents de la région. Et parmi ceux-là, il y a plusieurs auteurs de science-fiction. L'autre texte va être publié en France. Est-ce que c'est l'anthologie d'Hypermonde? En fait, dans les deux cas, on me demandait d'écrire sur le futur proche, ce qui m'a donné beaucoup de mal pour le premier texte. Ça m'a pris plus d'un an pour arriver à sortir quelque chose. Pour une nouvelle, pour moi, c'est incroyable. Une nouvelle, ça me prend 3 semaines. Mais le second m'a donné moins de mal parce que je l'ai replacé dans le même cadre d'abord. J'avais un univers, pourquoi pas le
Tant
réutiliser.
qu'à faire,
Et puis, mais la difficulté a été que pour l'autre anthologie, enfin le collectif français, ça devait être du Hope Solar Punk.
ah, d'accord.
Alors moi, le Hope, là, c'est pas tellement mon truc. Je suis une pessimiste active. C'est-à-dire que oui, le pire s'en vient, mais rien n'est certain. Même le pire, tout est possible, même le moins pire. Et donc, j'ai réussi à écrire ce texte-là. Et je pense que c'est le maximum de ce que je peux faire dans le genre relativement
Enfin, pas
positif.
positif.
Oui, disons positif. Positif. Sinon, ben, j'écris des autres textes qui n'ont rien à voir, qui seront publiés dans Solaris, qui sont du Von Harbour. Je ne sais plus à quel genre ça peut se rattacher. Mais bon.
Et ça va sortir bientôt alors aussi.
Il y en a un qui est un texte dans notre numéro spécial hommage à Wells, qui va paraître cet automne ou cet hiver, puisque c'est l'anniversaire de la guerre des mondes. Alors, on nous a posé la question, que vous inspire la guerre des mondes? Oh, qu'est-ce que la guerre des mondes? Et puis finalement, j'ai été inspirée à ma grande surprise. Bon, alors il y aura un texte sur la guerre des mondes. Et puis il y a un autre texte qui. Les ateliers. J'animais un atelier annuel. Et puis depuis 2 ans, c'est devenu en personne, en direct. Et depuis 2 ans, c'est devenu un atelier en de visu, en Zoom. Et la première expérience en 2019 a été tellement positive, alors que je pensais que ça allait être un désastre, que mes ateliéristes ont dit, oh ben dites, on pourrait peut-être le faire tous les mois maintenant, puisque bon, eh ben oui, alors depuis 2 ans, on le fait tous les mois. Et je dois dire que c'est un motivateur extrêmement, enfin pour moi en tout cas, ça me motive à écrire des textes. On se donne des contraintes, bon. Et bon, j'écris des textes comme tout le monde, mais en général, ce sont des petits textes courts parce que ce sont des exercices, en fait.
Tout à fait, oui.
Ah, ce n'est pas pour jouer, mais c'est pour apprendre. Et puis là, ça fait 2 fois que j'ai un texte complet, enfin 2 fois, non, ça fait 4 fois que j'ai un texte à trois textes complets et un texte qui est en cours. Alors là, un vrai roman feuilleton, parce que je le publie sur le site de l'atelier en feuilleton. Mais c'est ça. Alors, c'est un motivateur excellent. Et donc, à un moment où je me dis, non, je n'ai plus rien à écrire et je ne peux plus écrire et j'écrirai plus jamais rien, je suis morte. Ben non, finalement, j'écris. Youpi.
Eh ben, avec les autres, mais c'est une bonne façon de faire aussi. Ça peut donner des idées pour... C'est comme des petits bourgeons, ça peut donner après des romans feuilletons. Des
romans feuilletons.
Voilà, ben on a fait un petit
tour. Le mot de la fin, c'est « j'écris ». C'est bien.
Ben, c'est bien, parfait. Ça, on pourra vous lire. En tout cas, je vous remercie parce que vraiment, c'était un moment passionnant. C'est
moi qui vous remercie de m'avoir permis de vous passionner.
Non, en plus le roman dont on a parlé un peu plus longuement, donc les pierres et le cycle, j'appelle le cycle la voix des pierres et des roses. Il y a la voix des pierres, la voix des roses, et puis la balance et le sablier. C'est chez Alire. Ce qui est intéressant, c'est que bon, Alire est un éditeur québécois, mais heureusement pour nous, il fait des livres en e-book. Donc, on peut quand même vous trouver sur les sites de la FNAC, d'Amazon, pour acheter le livre. Donc, moi, je vous encourage à lire le roman feuilleton. Merci beaucoup, Elisabeth. Et puis, à bientôt, j'espère.
Bonne journée pour vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.